bien justement, commençons par, on va dire d'abord, les origines de la crypto-monnaie, mais en général, même si c'est... Mais comme je le disais précédemment, donc c'est un concept dont les racines sont antérieures à l'arrivée du Bitcoin. On a tendance à penser dans l'imaginaire collectif populaire que le Bitcoin a été la pierre fondatrice. Sauf que c'est faux, c'est vraiment un concept politique et philosophique qui date depuis plus longtemps.
Il y a un geste fondateur. Il y a un geste fondateur qui est celui de l'anonyme, Satoshi Nakamoto, qui publie, comme on sait, en le 1er novembre 2008, un texte par lequel il explique ce qu'il va faire, il donne des références, etc. C'est un texte fondateur dans la mesure où tout ce qui existe aujourd'hui existe par, à côté ou contre Bitcoin. Encore plus, je dirais que si je vous disais le dollar n'est que l'une des 200 monnaies nationales, vous me diriez oui, mais enfin on va quand même se faire payer en dollars plutôt qu'en roupies sans sonner parce que ça reste la monnaie de réserve et de change internationale. Donc le dollar est beaucoup plus fort que le franc suisse et infiniment plus fort que, je ne sais pas, le dirham marocain. On ne va pas les mettre à égalité sans vouloir être discourtois avec quiconque. Le dollar, c'est le dollar. Bon, Bitcoin, c'est le Bitcoin. On peut ensuite expliquer pourquoi, mais il est le premier. Il est comme monnaie, la monnaie de référence, parce que ça reste la moins volatile de toutes, et parce que quand vous voulez changer de la 2000e monnaie contre une autre monnaie, vous passez par le Bitcoin. Quand vous voulez rapatrier vos... etc. Ça reste quand même l'or numérique, le système, le Fornox numérique, c'est-à-dire que celle qui crée de la valeur s'accroche plus ou moins au Bitcoin. Mais si on parle du protocole, et on verra tout à l'heure le rapport entre un protocole et le jeton, si on parle du protocole, le premier protocole, c'est celui de Bitcoin.
Parce que, alors du coup, je me permets de vous couper, mais parce qu'il y a bien eu le Bitcoin s'est entre guillemets inspiré aussi d'ancêtres de monnaies virtuelles, comme le Hashcash ou la Bimoney, par exemple.
Oui, tout à fait. Alors, je ne dirais pas qu'il s'en est inspiré. Je dirais que depuis les années 90, comme vous le dites, il y a effectivement des aspirations. Et ces aspirations... Souvent, je dis qu'il y a deux enjeux. Il y a un enjeu technique et un enjeu politique. Et ça converge vers une solution qui sera celle de Bitcoin. Il y a un enjeu technique parce qu'est apparu Internet, qu'à l'époque, en France, on voit à peine, en Californie, on le voit mieux. Et sur Internet, très rapidement, il apparaît quelque chose. C'est que si on est au bistrot Selim et Jacques et que Jacques doit 10 euros à Selim, ben, il donne un billet. Et en fait, les autres autour ne savent pas que je m'appelle Jacques, ne savent pas que vous appelez Céline, ne savent pas pourquoi je vous ai donné, est-ce que je vous paye, est-ce que je vous rembourse, est-ce que je vous corromps, est-ce que vous m'avez fait chanter, ne savent rien. La translation, la tradition de monnaie est faite de la main à la main, sans autorité centralisatrice et évidemment de façon pseudonyme. Mais c'est cash, c'est rapide, c'est fluide. Bien sûr, depuis 20 ans, les solutions de paiement électronique se sont améliorées. Il y a le sans contact, etc. N'empêche que ça laisse des traces, qu'il peut y avoir un temps d'autorisation, etc. En 90, les solutions bancaires sont encore très lourdes. Et avec ce nouvel espace marchand qui apparaît, eh bien, on voit bien, je veux dire les choses crûment, qu'on ne peut pas faire rentrer la carte bleue dans le site Internet comme vous donneriez un billet de 20 $ pour payer votre pizza. Donc, il y a cette recherche d'une solution fluide et rapide, et ça ne peut être qu'un cash. Parce que si je donne 10 euros à Selim, c'est fait en quelques instants, il le met dans sa poche, et voilà. Si je fais un chèque, ce qui ne se fait plus, mais si je fais un paiement, tout paiement par banque, ce n'est pas Jacques qui donne à Selim, c'est Jacques qui demande au Crédit Lyonnais de contacter je ne sais qui, une chambre de compensation, la Banque de France, des organismes, etc.
Qui va vous appelle ce que l'on appelle le tiers de confiance, du coup, je crois.
Oui, mais en fait, si on n'avait qu'un, ce serait déjà merveilleux. Mais en fait, quand vous faites si je vends des beignets et que j'accepte la carte bleue et que vous m'achetez un beignet, ça implique en fait une grosse quinzaine d'intermédiaires. Dit le tiers de confiance. Donc, toute la planète le sait. Et avec deux conséquences. La première technique, c'est que ça met du temps. Alors, parfois, vous voyez, ça rame, donc le commerçant vous dit « Ah, ça rame un peu », la dame qui est devant vous est humiliée, elle dit « Mais pourtant, j'ai de l'argent parce qu'elle a peur qu'on pense qu'elle est un peu juste, etc. » Ça rame. Bon. Donc, les gens qui voulaient faire Internet avec l'idée d'exploiter commercialement Internet avec l'idée que ça devait être quand même une grande surface et non pas une épicerie, cherchaient une solution de paiement fluide, quelque chose qui ressemble à du cash. Et puis, il y avait l'aspiration politique. Parce que si je vends des matelas et que vous venez m'acheter un matelas de place, tout l'univers commercial, c'est que vous êtes mis en couple. Et il y a des choses qui peuvent être plus compromettantes. Donc, il y avait, dès le début d'Internet, les gens ont vu que ça allait accumuler des données et que ces données, elles seraient un peu casse-pieds, que ce serait de l'or qu'on vous prendrait, etc., plus la défense de votre vie privée. Donc, pour ne défendre votre vie privée, alors vous avez me parlé de drogue, mais il n'y a pas que ça, je suis désolé. Une jeune fille qui va à la pizzeria et qui paye, elle peut avoir envie de payer sans que les gens, regardant sa carte bleue, sachent qu'elle s'appelle Justine Dumoulin, après elle va taper Justine Dumoulin sur Facebook, etc., etc.
Or, oui, ce côté protection de la vie privée, du coup, qui était voilà. Quelque chose d'important aussi. Hein.
Et donc, dans ces gens-là, réfléchissaient à une solution qui unisse un peu les deux. Et ce qui est, tant et si bien qu'on dit toujours qu'il y a des cypherpunks, mais il n'y a pas que ça. Avant 2008, l'un des tentatives les plus abouties, elle est faite par le groupe Citibank, qui n'est pas notoirement cypherpunk. Alors, au milieu de tout ça, il y a eu une série de... C'est un milieu ouvert, où tout le monde se rencontre, échange, etc. Donc, il y a des tentatives, il y a des flops, il y a des trucs qui marchent 8 jours et puis qui se vautrent, et tout d'un coup, il y a Bitcoin, qui se caractérise par 2 choses. 1, le fait que son créateur est anonyme, oui. Et 2, le fait que ça marche.
Et je dirais peut-être 3 aussi, vous allez me dire si c'est exact ou pas, mais cette crypto-monnaie en particulier est arrivée à un moment charnière de l'histoire de la finance, parce qu'elle est arrivée, enfin en tout cas, elle est sortie de manière version 1.1 peu de temps après la crise des subprimes.
Alors c'est souvent une présentation qu'on fait, qui est de dire le monde s'effondre, mais un génie met en ligne Bitcoin. Ça me paraît peu probable. Je pense que ça a pu accélérer son désir de publier le papier. D'ailleurs, il publie le papier le 1er novembre 2008 et il lance le machin running le 3 janvier 2009.
Donc, juste pour remettre en contexte pour ceux qui nous écoutent, donc le créateur donc de la monnaie Bitcoin qui utilise un pseudonyme qui s'appelle Satoshi Nakamoto, dont on ne connaît toujours pas l'identité, qui je pense ne veut pas qu'on connaisse son identité, avait déployé un ce qu'on appelle un livre blanc. Donc c'est souvent utilisé dans le monde des développeurs ou du code, où le principe, c'est de proposer un concept, une technologie à développer, et que en fait, toute la communauté peut travailler dessus pour améliorer le concept. Voilà, c'était juste une petite parenthèse.
Non, c'est exactement ça. Donc, pour moi, là, c'est un peu l'historien qui parle. Il est probable que ça a accéléré son désir de publier la chose, mais que c'est une réflexion qui probablement s'est déployé sur 2-3 ans. Après, quand on rentre dans l'intelligence de ces propositions, un constat que tout le monde fait, de même que je disais que tout le monde, la première fois, passe son chemin en disant « pfff ». Dès que vous plongez dedans, au bout de semaines et de mois, vous apercevez que c'est bougrement intelligent et que des choses qui, au début, vous sont apparues comme… aléatoire, discrétionnaire, pourquoi 21 millions, pourquoi 10 minutes, pourquoi, etc., c'est presque toujours optimal. Satoshi Nakamoto n'a rien inventé. C'est-à-dire que la cryptographie, ce n'est pas lui, la théorie des jeux, ce n'est pas lui, le travail de la preuve, ce n'est pas lui. Par contre, il a bidouillé comme un assembleur, de même que celui qui a inventé la voiture n'a pas inventé la voiture, il a assemblé des moteurs, des freins, des roues.
Technologie.
Mais l'assemblage de Satoshi est proprement génial, et tous ceux qui ont vraiment étudié la chose et qui y ont passé le temps, et ce temps se compte en mois au minimum, finissent toujours par avouer une sorte d'émerveillement devant la puissance conceptuelle, la capacité de prévoir les choses de quelqu'un. Est-il un homme, une femme, on sait peu de choses sur lui, sauf probablement ce que révèle l'analyse linguistique de son texte, c'est-à-dire qu'il est un native English speaker, et donc probablement pas un japonais, mais c'est probablement un mathématicien de très haut niveau, et probablement s'il n'a pas travaillé en groupe, c'est quelqu'un qui est nourri des réflexions d'un groupe. Il y a un milieu, dans lequel il y a une fermentation, d'où jaillit l'inspiration d'un homme ou d'un groupe. Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent que c'est un homme seul, mais j'ai de très bons amis, très compétents, qui pensent le contraire, donc ça n'a pas grand intérêt.
j'avais quelques petites questions, voilà, comme ça, pêle-mêle, sur un peu les origines et justement peut-être débunker quelques clichés. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais ça, c'est beaucoup à cause peut-être des médias mainstream qui s'y sont intéressés de surface à cette monnaie. On dit souvent que le Bitcoin est une monnaie du crime sur le dark web. Enfin, on utilise des termes, des fois, qui sont même pas compris par les personnes qui le disent. Ces propos n'engagent que moi, je le précise. Est-ce que en effet, cette monnaie-là était pensée pour ça à la base ou pas du tout ? J'imagine que...
Alors, non, je pense que les gens qui... Il y a eu des tentatives, il y a eu des monnaies inventées par des gens qui étaient des quasi-escrocs. C'est certain que l'apparition d'Internet ouvrait un espace aux négociants de produits ou de services illicites. C'est clair, puisque finalement, le transport de la marchandise, si vous pensez à certaines marchandises illicites, est assez facile dans des papiers banalisés, etc., et que finalement, le maillon faible de ce commerce illicite, c'était le paiement qui laisse des traces. Alors après, le rapport de Bitcoin et du crime. Par crime, j'entends voilà, les trafics illicites de substances qui apportent la mort. Il est incontestable. Et il est naturel, il n'y a pas de quoi s'en étonner. Toute technologie de rupture, et je le dis y compris devant des militaires quand ils m'invitent, ce qui s'est fait récemment, intéresse d'abord les bandits et les militaires. Un honnête homme, monsieur votre père, s'il est boulanger, eh bien il vit avec sa boulangerie, ses clients, et voilà, il ne cherche pas le truc magique parce qu'il vit très bien. Par contre, s'il rêve de casser la banque, eh bien, il va chercher des moyens imprévus de casser la banque. En fait, je devrais rajouter les bandits, les prestidigitateurs et les militaires. Et les prestidigitateurs aussi sont très informés des découvertes technologiques. Et les militaires aussi, pourquoi ? Parce qu'ils veulent créer une surprise. Un boulanger, un plombier, un professeur de mathématiques ne cherche pas à créer la surprise. Un bandit, un prestidigitateur ou un militaire cherche à créer la surprise. Et je donne toujours cet exemple qui est celui de la voiture. Le premier usage un peu spectaculaire de la voiture, 1911, c'est la bande à Bonneau, qui avec deux Dion-Boutons 12 chevaux, percole, si mes souvenirs sont bons, une société générale et part en emportant les gros billets et les valeurs comme le chantait l'autre. 1911. 1914, le général Gallieni sauve le moral des troupes en envoyant les taxis de la Marne, des Renault, fabriqués à Levallois-Perret, où je vis, pour sauver la France. 1936, les premiers congés payés, les plus riches s'achètent une petite teuf-teuf et partent avec leur voiture. Donc, vous voyez, premièrement, les bandits, deuxièmement, les militaires, et des décennies après, parfois, les honnêtes gens, quand la technologie est stabilisée. Donc, une technologie qui n'intéresse pas les bandits, les prestidigitateurs et les militaires et n'apporte rien de nouveau. Alors, il y a un âge du crime. Et clairement, si vous regardez Bitcoin né en 2009, ça n'a pas pu être inventé pour ça, puisque en 2009, ça ne vaut rien, en 2010, ça ne vaut rien, en 2011, ça ne vaut rien. Donc, autant demander si on vous dit toujours ça, c'est comme des coquillages. Les coquillages n'ont pas été inventés pour dealer de la cam. Bitcoin va progressivement prendre de la valeur. Et sur l'année 2012 et 2013, il y a un site, la route de la soie, The Silk Road, qui va s'en servir de façon assez importante. Même si les chiffres n'étaient pas dans la monnaie acéphale, on a essayé avec Adli de rectifier les chiffres, parce qu'en fait, tout a été analysé avec les chiffres du débit de la période où les policiers ont arrêté Russell Brecht. Et en fait,
parce que la valeur n'était pas aussi élevée à l'époque, du coup, j'imagine. La valeur du Bitcoin n'était pas aussi élevée à l'époque.
Sur les 18 mois où ça a duré, le Bitcoin valait à peu près $1, et au dernier moment, il valait 10, et ils ont tout multiplié par 10. Donc, en fait, les chiffres, 1 milliard, etc. Néanmoins, on peut estimer que sur cette période-là, le poids du crime dans Bitcoin et le poids de Bitcoin dans le crime est à peu près de l'ordre de 12%. Mais c'est de l'histoire ancienne. Et si je vous le dis, c'est parce que des amis à moi, y compris des gendarmes, me l'ont dit. Je dis, mais on adore Bitcoin. Chaque fois que vous faites une sottise en Bitcoin, on vous retrouvera. Bitcoin n'est pas une monnaie anonyme.
C'est ce que je voulais dire. D'ailleurs, on y reviendra un peu plus tard sur la différence entre une monnaie anonyme et une monnaie pseudonyme aussi. Et le Bitcoin fait plutôt partie de la partie pseudonyme.
Pseudonyme. Et voilà. La différence, c'est simple. Si vous voulez aller au restaurant avec une jeune fille sans que votre femme ne le sache, vous avez intérêt à vous servir d'une monnaie pseudonyme. Si vous vous servez de cette monnaie pseudonyme pour financer un crime contre la sûreté de l'État, n'ayez pas peur, on vous retrouvera.
Vous avez cité un chiffre intéressant qui est 21 millions. 21 millions, ce serait le nombre maximum de bitcoins qui peuvent être en circulation dans le monde. On n'a pas encore atteint ce chiffre-là, mais c'est quelque chose qui était déjà prévu à l'origine. Est-ce qu'on a une explication de pourquoi? Et après, on va peut-être en détail dans le minage, etc., un peu plus tard.
Alors, c'est un peu compliqué, mais l'idée de base, c'est que toutes les 10 minutes, il y a une récompense. Au début, les 4 premières années, c'était 50 bitcoins. Les 4 années suivantes, c'est 25. Les 4 années d'après, c'était 12,5. Actuellement, on est dans au-delà de la 12e année, on est à 6,25. Vous reconnaissez là la suite de Zénon. Un demi, plus un quart, plus un huitième, plus un 16e. La suite de Zénon converge vers 1. Donc, si vous prenez tous les bitcoins qui seront émis comme ça, c'est 50 plus 75 plus, etc., ça fait 100. Et comme c'est émis toutes les 10 minutes, et que ça va durer pendant jusqu'en 2140, ça converge vers il y a 210 000 périodes multipliées par la limite de la suite de Zénon, ça converge naturellement vers 21 millions. La vraie question, en fait, c'est pas pourquoi 21 millions, c'est pourquoi cette diminution suivant la suite de Zénon, c'est-à-dire pourquoi tous les 4 ans. La question, c'est pourquoi tous les 4 ans. Et là, c'est un chiffre qui semble discrétionnaire, même s'il y a d'assez bonnes raisons. Pourquoi c'est toutes les 10 minutes? Et pourquoi tous les 4 ans, c'est divisé par 2 et pas par 3 ou par 4? Mais le chiffre de 21 millions, en lui-même, n'a pas de magie. Il est le résultat mathématique d'un certain nombre d'autres paramètres sur lesquels on est moins souvent interrogé.